et livre 3, chapitre 2, grand 1. La fête comprend deux phases successives. Les rites qui se succèdent dans la première ont pour objet d'assurer la prospérité de l'espèce animale ou végétale qui sert de totem au clan. Les moyens qui sont employés dans ce but peuvent être ramenés à quelques types principaux. On se rappelle que les ancêtres fabuleux dont chaque clan est censé descendre ont autrefois vécu sur la terre et y ont laissé des traces de leur passage. Ces traces consistent notamment en pierres ou en rochers qu'ils auraient déposés en certains endroits ou qui se seraient formés au point où ils se sont abîmés dans le sol. Ces rochers et ces pierres sont considérés comme les corps ou comme des parties du corps des ancêtres dont ils rappellent le souvenir. Ils les représentent. Par suite, ils représentent également les animaux et les plantes qui servaient de totem à ces mêmes ancêtres, puisqu'un individu et son totem ne font qu'un. On leur prête donc la même réalité, les mêmes propriétés qu'aux animaux ou aux plantes de même sorte, qui vivent actuellement. Mais ils ont sur ces derniers cet avantage d'être impérissables, de ne pas connaître la maladie et la mort. Ils constituent donc comme une réserve permanente, immuable et toujours disponible de vie animale et végétale. Aussi est-ce à cette réserve que, dans un certain nombre de cas, on va annuellement puiser pour assurer la reproduction de l'espèce. Voici par exemple comment, à Alice Springs, le clan de la chenille Wichiti procède à son intikiuma. Au jour fixé par le chef, tous les membres du groupe totémique s'assemblent au camp principal. Les hommes des autres totems se retirent à quelque distance. Car chez les Arunta, il leur est interdit d'être présents à la célébration du rite qui a tous les caractères d'une cérémonie secrète. Un individu d'un totem différent, mais de la même fratrie, peut bien être invité, par mesure gracieuse, à y assister, mais c'est seulement en qualité de témoin. En aucun cas, il n'y peut ajouter un rôle actif. Une fois que les gens du totem sont assemblés, ils se mettent en route, ne laissant au camp que deux ou trois d'entre eux. Tout nus, sans armes, sans aucun de leurs ornements habituels, ils s'avancent les uns derrière les autres dans un profond silence. Leur attitude, leur démarche sont empreintes d'une gravité religieuse. C'est que l'acte auquel ils prennent part a, à leurs yeux, une exceptionnelle importance. Aussi, jusqu'à la fin de la cérémonie, sont-ils tenus d'observer un jeûne rigoureux. Le pays qu'ils traversent est tout rempli de souvenirs laissés par leurs glorieux ancêtres. Ils arrivent ainsi à un endroit où un gros bloc de quartzite est enfoncé dans le sol, avec tout autour des petites pierres arrondies. Le bloc représente la chenille Wichiti à l'état adulte. La Latunja le frappe avec une sorte de petite auge en bois appelée Apmara, en même temps qu'il psalmodie un chant dont l'objet est d'inviter l'animal à pondre. Il procède de même avec les pierres, qui figurent les œufs de l'animal, et, avec l'une d'elles, il frotte l'estomac de chaque assistant. Cela fait, ils descendent tous un peu plus bas, au pied d'un rocher, également célébré dans les mythes de l'Alcheringa, à la base duquel se trouve une autre pierre, qui, elle aussi, représente la chenille Wichiti. La Latunja la frappe avec son apmara. Les gens qui l'accompagnent en font autant avec les branches de gommier qu'ils ont cueillies en route, le tout au milieu de chants qui renouvellent l'invitation précédemment adressée à l'animal. Près de 10 endroits différents sont successivement visités, dont quelques-uns sont parfois situés à 1 mille les uns des autres. Dans chacun d'eux, au fond d'une sorte de cave ou de trou, se trouve quelques pierres qui est censée figurer la chenille Wichiti, sous l'un de ses aspects ou à l'une des phases de son existence. Et sur chacune de ces pierres, les mêmes cérémonies sont répétées. Le sens du rite est apparent. Si la Latunja frappe les pierres sacrées, c'est pour en détacher de la poussière. Les grains de cette poussière très sainte sont considérés comme autant de germes de vie. Chacun d'eux contient un principe spirituel qui, en s'introduisant dans un organisme de la même espèce, y donnera naissance à un être nouveau. Les branches d'arbres dont se sont munis les assistants servent à disperser dans toutes les directions cette précieuse poussière. Elle s'en va de tous les côtés faire son œuvre fécondante. Par ce moyen, on croit avoir assuré la reproduction abondante de l'espèce animale dont le clan a la garde, pour ainsi dire, et dont il dépend. Les indigènes eux-mêmes donnent du rite cette interprétation. Ainsi, dans le clan de l'île Pirla, sorte de manne, on procède de la manière suivante. Quand le jour de l'Intikiuma est arrivé, le groupe se réunit à un endroit où se dresse une grande pierre, d'environ 5 pieds de haut. Au-dessus de cette pierre s'en élève une seconde, qui est très semblable d'aspect à la première, et que d'autres, plus petites, entourent. Les unes et les autres représentent des masses de manne. La Latunja creuse le sol au pied de ces rocs et met au jour un Shuringa, qui passe pour y avoir été enterré au temps de l'Alchiringa, et qui, lui aussi, constitue comme de la quintessence de manne. Il grimpe ensuite au sommet du rocher le plus élevé, et le frotte d'abord avec ce Shuringa, puis avec les pierres les plus petites qui sont tout autour. Enfin, avec des branches d'arbres, il balaie la poussière qui s'est ainsi amassée à la surface du rocher. Chacun des assistants en fait autant à tour de rôle. Or, disent Spencer et Guylaine, la pensée des indigènes est que la poussière ainsi dispersée va se poser sur les arbres mulga et y produit de la manne. Et en effet, ces opérations sont accompagnées d'un chant que chante l'assistance et où cette idée est exprimée. Avec des variantes, on trouve le même rite dans d'autres sociétés. Chez les Urabuna, il y a un rocher qui représente un ancêtre du clan du lézard. On en détache des pierres, qu'on lance dans tous les sens, afin d'obtenir une abondante production de lézards. Dans cette même tribu, il existe un banc de sable auquel des souvenirs mythologiques associent étroitement le totem du pou. Au même endroit se trouvent deux arbres, dont l'un est appelé l'arbre à pou ordinaire, l'autre l'arbre à pou crabe. On prend de ce sable, on le frotte contre ces arbres, on le jette de tous les côtés, et l'on est convaincu que par ce moyen, les poux naîtront nombreux. Chez les Maras, c'est en dispersant de la poussière détachée de pierres sacrées qu'on procède à l'Intikiuma des abeilles. Pour le kangourou des plaines, on emploie une méthode légèrement différente. On prend de la bouse de kangourou, on l'enveloppe dans une certaine herbe dont cet animal est très friand et qui, pour cette raison, ressortit au totem du kangourou. On dépose la bouse ainsi enveloppée sur le sol entre deux couches de cette même herbe et on met le feu au tout. Avec la flamme qui se dégage, on allume des branches d'arbres que l'on agite ensuite de manière à ce que les étincelles s'en aillent dans toutes les directions. Ces étincelles jouent le même rôle que la poussière dans les cas précédents. Dans un certain nombre de clans, pour rendre le rite plus efficace, les hommes mêlent à la substance de la pierre quelque chose de leur propre substance. Des jeunes gens s'ouvrent les veines et laissent leur sang s'écouler à flot sur le rocher. C'est ce qui arrive notamment dans l'Intikiuma de la fleur Aeka, chez les Arunta. La cérémonie a lieu dans un endroit sacré, autour d'une pierre également sacrée qui représente, aux yeux des indigènes, des fleurs Akea. Après quelques opérations préliminaires, le vieillard qui dirige l'exécution du rite invite un jeune homme à s'ouvrir les veines. Celui-ci obéit et laisse son sang se répandre librement sur la pierre, tandis que les assistants continuent à chanter. Le sang coule jusqu'à ce que la pierre en soit complètement couverte. L'objet de cette pratique est de revivifier, en quelque sorte, les vertus de la pierre et d'en renforcer l'efficacité. Il ne faut pas oublier, en effet, que les gens du clan sont eux-mêmes des parents de la plante ou de l'animal dont ils portent le nom. En eux, et notamment dans leur sang, réside le même principe de vie. Il est donc naturel qu'on se serve de ce sang et des germes mystiques qu'il charrie pour assurer la reproduction régulière de l'espèce totémique. Quand un homme est malade ou fatigué, il arrive fréquemment chez les Arunta que, pour le ranimer, un de ses jeunes compagnons s'ouvre les veines et l'arrose de son sang. Si le sang peut ainsi réveiller la vie chez un homme, il n'est pas surprenant qu'il puisse également servir à l'éveiller dans l'espèce animale ou végétale avec laquelle les hommes du clan se confondent. Le même procédé est employé dans l'Intishuma du kangourou à Undiara, Arunta. Le théâtre de la cérémonie est un trou d'eau surplombé d'un rocher à pie. Ce rocher représente un animal kangourou de l'Akeringa qui a été tué et déposé à cet endroit par un homme kangourou de la même époque. Aussi, de nombreux esprits de kangourous sont-ils censés y résider. Après qu'un certain nombre de pierres sacrées ont été frottées les unes contre les autres de la manière que nous avons décrite, plusieurs des assistants montent sur le rocher le long duquel ils laissent couler leur sang. Le but de la cérémonie, d'après ce que disent les indigènes, est actuellement le suivant. Le sang d'hommes kangourous ainsi répandu sur le rocher est destiné à en chasser les esprits des kangourous animaux qui s'y trouvent et à les disperser dans toutes les directions, ce qui doit avoir pour effet d'accroître le nombre des kangourous. Il y a même un cas, chez les Arunta, où le sang paraît être le principe actif du rite. Dans le groupe de l'émou, on n'emploie pas de pierres sacrées, ni rien qui y ressemble. Lala Tunja et quelques-uns de ses assistants arrosent le sol de leur sang. Sur la terre ainsi imbibée, on trace des lignes de diverses couleurs qui représentent les différentes parties du corps de l'émou. On s'agenouille autour de ce dessin et l'on chante un chant monotone. C'est de l'émou fictif ainsi incanté et, par conséquent, du sang qui a servi à le faire, que sont censés partir les principes vivants qui, en animant les embryons de la génération nouvelle, empêcheront l'espèce de disparaître. Chez les Wangangaru, il y a un clan qui a pour totem une certaine sorte de poisson. C'est également le sang qui joue le rôle principal dans l'Intikiuma de ce totem. Le chef du groupe, après s'être peint cérémonialement, entre dans un trou d'eau et s'y assoit. Puis, avec de petits os pointus, il se perce successivement le scrotum et la peau autour du nombril. Le sang qui coule de ces différentes blessures se répand dans l'eau et donne naissance au poisson. C'est par une pratique tout à fait similaire que les Dieri croient assurer la reproduction de deux de leurs totems, le serpent tapis et le serpent Vumba, serpent ordinaire. Un Mura Mura, appelé Minkani, est censé résider sous une dune. Son corps est représenté par des ossements fossiles d'animaux ou de reptiles, comme en contiennent, nous dit Owit, les deltas des rivières qui se déversent dans le lac Eyre. Quand le jour de la cérémonie est venu, les hommes s'assemblent et se rendent à l'endroit où se trouve le Minkani. Là, ils creusent jusqu'à ce qu'ils atteignent une couche de terre humide et qu'ils appellent les excréments du Minkani. À partir de ce moment, on continue à fouiller le sol, avec de grandes précautions, jusqu'à ce qu'on mette à découvert le coude du Minkani. Alors, deux hommes s'ouvrent les veines et laissent leur sang couler sur la pierre sacrée. On chante le chant du Minkani, tandis que les assistants, emportés par une véritable frénésie, se frappent les uns les autres avec leurs armes. La bataille dure jusqu'à ce qu'ils soient rentrés au camp, qui est situé à une distance d'un mille environ. Là, les femmes interviennent et mettent fin au combat. On recueille le sang qui coule des blessures, on le mêle aux excréments du Minkani et on sème les produits du mélange sur la dune. Le rite accompli, on est convaincu que les serpents tapis naîtront en abondance. Dans quelques cas, on emploie comme principe vivifiant la substance même que l'on cherche à produire. Ainsi, chez les Kaitish, au cours d'une cérémonie qui a pour but de faire de la pluie, on arrose d'eau une pierre sacrée, qui représente des héros mythiques du clan de l'eau. Il est évident que par ce moyen, on croit augmenter les vertus productrices de la pierre tout aussi bien qu'avec du sang, et pour les mêmes raisons. Chez les Mara, l'opérateur va puiser de l'eau dans un trou sacré. Il en boit et en crache dans toutes les directions. Chez les Wargaya, quand les Ignam commencent à pousser, le chef du clan de l'Ignam envoie les gens de la fratrie à laquelle il n'appartient pas lui-même cueillir de ses plantes. Ceux-ci lui en rapportent quelques-unes et lui demandent d'intervenir pour que l'espèce se développe bien. Il en prend une, la mort, et jette les morceaux de tous les côtés. Chez les Kaitish, quand après des rites variés que nous ne décrivons pas, une certaine graine d'herbe appelée Erlipina est parvenue à son plein développement, le chef du totem en apporte un peu au camp des hommes et la moue entre deux pierres. On recueille puissamment la poussière ainsi obtenue, et on en place quelques grains sur les lèvres du chef, qui, en soufflant, les disperse dans tous les sens. Ce contact avec la bouche du chef, qui possède une vertu sacramentaire toute spéciale, a sans doute pour objet de stimuler la vitalité des germes que ces grains contiennent, et qui, projetés à tous les coins de l'horizon, vont communiquer aux plantes les propriétés fécondantes qu'ils possèdent. L'efficacité de ces rites ne fait pas de doute pour l'indigène. Il est convaincu qu'ils doivent produire les résultats qu'il en attend, avec une sorte de nécessité. Si l'événement trompe ses espérances, il en conclut simplement qu'ils ont été contrecarrés par les maléfices de quelque groupe hostile. En tout cas, il ne lui vient pas à l'esprit qu'un résultat favorable puisse être obtenu par d'autres moyens. Si par hasard la végétation pousse, ou si les animaux prolifèrent avant qu'il n'ait procédé lui-même à l'intichiuma, il suppose qu'un autre intichiuma ait été célébré, sous terre, par les âmes des ancêtres et que les vivants recueillent les bénéfices de cette cérémonie souterraine.